Pour l'instant, on s'en va rejoindre le collègue. C'est un collaborateur régulier de BPM Sport, Marco D'Amico, qui travaille pour RG Media. Moi, je vais être bien franc avec vous. Là, je ne connais pas ce média sportif. Pourtant, Marco semble avoir beaucoup d'influence dans le monde du hockey, au-dessus, pas loin de 30 000 abonnés juste sur Twitter. Puis il en sort des scoops. C'est lui qui a sorti, je le disais tantôt, le scoop de l'arrivée de Demidov ici en Amérique du Nord. Je vais aller le saluer au bout du fil. C'est la première fois qu'on se parle. On suit sur Twitter, mais c'est la première fois qu'on se parle en personne. Salut Marco!
Salut, ça va bien?
Très bien toi-même?
Très bien, merci.
Bon, parle-moi de RG Media. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites comme travail médiatique?
Bien, c'est pas juste le hockey. On touche pas mal tous les sports, que ce soit football, baseball, le soccer, que ce soit nord-américain ou européen. Donc, on s'occupe de pas mal tout ce qui est suivi sportif, mais on aime aussi ajouter quelques éléments analytiques aussi à notre couverture. Donc, c'est une petite compagnie qui a commencé à peu près un an, mais on a eu beaucoup de croissance due en grosse partie à la qualité de journalistes qu'on a parmi nous. Pas juste moi, mais juste vraiment des gros noms à travers les médias américains aussi. Donc, ça nous permet de tisser des liens avec certaines personnes, de s'informer dans certaines situations. Puis comme tu as mentionné du côté de Demidov, c'est une question de connaître la bonne personne au bon moment, puis l'information arrive à tes pieds et t'as la capacité d'être capable de la sortir. Donc, c'est juste une question de travail, de pouvoir se mettre dans une bonne position. Donc, on a eu cette chance-là, puis la croissance continue depuis.
Et est-ce que tu vis du journalisme sportif? Est-ce que tu es capable de vivre juste de ça?
Je pourrais, oui, absolument. Je pourrais. Je pense que c'est rendu assez stable de même, mais moi, j'ai personnellement un background en marketing. Donc, ça prendrait beaucoup pour me faire aller dans juste une voie. Je suis un gars qui aime travailler, donc d'avoir plusieurs jobs ou de faire plusieurs choses en même temps, c'est ça me carbure. C'est ça qui me donne un petit challenge. Donc, je pense que juste faire du journalisme, c'est pas nécessairement ce que j'entrevois, mais j'entrevoyais pas faire du journalisme du tout il y a une dizaine d'années. Donc, nous voilà.
OK, alors c'est comme une passion, puis tu la monétises donc d'une certaine façon.
Bien, du côté marketing, je suis un créateur de contenu, donc les deux se rencontrent assez facilement quand tu es journaliste, parce que tu es un créateur de contenu, mais ce que j'aime le plus, c'est le fait que tu sois auprès des joueurs, que tu apprends à connaître ces joueurs-là, c'est du monde comme toi et moi, et l'histoire qu'ils peuvent te raconter, comment tu peux les rapprocher aux partisans aussi, parce qu'on sait à Montréal, les maniaques de hockey veulent connaître les joueurs, veulent connaître qu'est-ce qui se passe derrière le rideau et tout. Donc, c'est une des choses que j'adore de faire le plus. Et donc, j'ai eu cette opportunité-là durant les 6 ou 7 dernières années. Je pense que c'est pour moi, c'est fantastique. Donc, j'ai jamais entrevu à être un journaliste, mais là que je le suis, très content de l'être.
Ben écoute, et puis même, je te dirais que t'es plus que journaliste, t'es pratiquement un insider, parce que c'est toi qui avais eu le scoop de l'arrivée de Demidov. C'est-tu ton plus gros circuit en carrière, ça?
Oui, je pense que j'étais sur les ondes de BPM Sport avant n'importe qui pour parler de l'intérêt envers Jordan Kyrou et Noah Dobson. Donc, je ne veux pas vous dire que c'était mon scoop, parce qu'il y avait plusieurs là, mais le collègue Anthony Martineau et moi avaient sorti cette information-là 2-3 jours avant le repêchage et on avait le retour la soirée avant le repêchage aussi. Donc, je pense que Demidov était la plus grosse surprise.
Ouais.
Mais je pense que le coup Noah Dobson, spécialement quand on était au repêchage à Los Angeles, je pense que c'est ça qui a fait le plus d'impact.
Wow! Et visiblement, tu as des contacts en Russie, parce qu'en plus de Demidov, c'est toi qui as sorti au cours des dernières heures là, la rumeur en ce qui concerne Evgeny Kuznetsov.
Ouais, c'est pas tant une rumeur. Les Canadiens ont effectivement parlé avec le clan juste pour voir où est-ce qu'ils étaient, ce qu'ils recherchaient et tout. Je ne dis pas qu'il y a une course pour lui non plus. Ce n'est pas nécessairement le plan A du Canadien de Montréal, mais c'était une information à sortir parce qu'on l'avait concrétisé d'une deuxième source. Mais oui, c'est une de nos forces, le fait qu'on soit capable de travailler en Russie, en Europe, en Amérique du Nord, et on a plusieurs journalistes à travers le monde. Donc, ça facilite le transfert d'informations qui serait outre-temps un peu plus difficile d'aller chercher comme journaliste basé uniquement en Amérique du Nord. Donc, ça nous a aidé avec Demidov. On a eu l'entrevue avec Alexander Zarovski aussi. Donc, ça nous permet certains privilèges et c'est certain que ça nous a aidé durant cette année.
Qu'est-ce que tu penses de ben, tu viens de nous dire que c'est plus qu'une rumeur, là, c'est, on s'est vraiment enquéri des services de Kuznetsov. C'était déjà un joueur qui était sur la pente descendante, est allé faire un tour dans la KHL. On connaît son potentiel offensif, mais on connaissait aussi ses frasques hors glace. Est-ce que selon toi, c'est une bonne idée de s'enquérir de ses services?
Écoute, je pense que vu le marché en ce moment et ce que le Canadien cherche, qui est un centre gaucher, tu n'as pas tant de choix. Et les équipes qui ont des centres en ce moment, je pense qu'on a vu le contrat qui a été signé par Jack McBain hier soir, qui a le meilleur taux de points de sa carrière de 27 points. Il a signé pour 4,25 millions. Donc, des centres, même
C'est
des centres
incroyable,
de
hein?
troisième ou quatrième trio, ça vaut très cher, ça vaut de l'or en ce moment. Donc, ça te démontre à quel point ça va être difficile d'aller chercher un centre en ce moment. Et les clubs qui l'ont ne veulent pas les échanger, sauf pour des défenseurs d'impact, ce que le Canadien vient d'acquérir et ne peut pas nécessairement s'en départir. Donc, pour moi, c'est juste. Le Canadien a démontré un intérêt aussi envers Joey Veleno. On sait que ça probablement va pas donner grand-chose parce qu'il y a d'autres clubs qui sont plus intéressés. Mais le Canadien se cherche absolument un centre gaucher dans leur alignement parce que depuis la perte de Christian Dvorak, je pense pas que ça va être Alex Newhook qui va être le seul centre
Ouais.
capable de jouer centre gaucher.
Et là, je recule le camion, là, puis je fais bip, 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 là. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment lancé la serviette dans le cas de Kirby Dack comme deuxième centre de l'équipe? C'est comme si on prend pour acquis que Kirby Dack est plus d'un carton.
Moi, je dirais que c'est l'inverse. Je pense que si tu vas aller chercher un deuxième, excuse-moi, puis c'est là que je me corrige. Je pense plus que la mission ici, c'est d'aller chercher un deuxième centre. Donc, exemple, si tu vas chercher un Kuznetsov, c'est pas pour le jouer sur un deuxième trio. Il jouerait plus bas dans l'alignement. Je pense que Kirby Dach, à ce point-ci de l'année, outre une transaction absolument magistrale, je pense que Kirby Dach va être le deuxième centre du Canadien de Montréal l'année prochaine. Au moins pour débuter la saison,
Ben,
et on
c'est ce que je
verra rendu
pense
là.
aussi. C'est ce que je pense
Puis
aussi. Puis, tu sais.
c'est la raison pourquoi la rumeur persiste avec Jordan Kyrou, parce que si tu ne peux pas aller chercher un deuxième centre, vaut mieux bien entourer ton deuxième centre. Et c'est là où ce que le désir du Canadien d'aller chercher un top 6 d'impact rentre en considération.
OK.
Puis Marco, tu parles justement de Jordan Kyrou. C'est le collègue Maxime Truman, là, il y a quelques minutes, qui nous confirme que Jordan Kyrou serait prêt à lever sa clause de non-échange ou du moins ne serait pas un enjeu là, dans une possible transaction entre le Canadien et les Blues. Est-ce que le Canadien a réellement les actifs pour danser avec les Blues par rapport à Jordan Kyrou?
Dépend de qu'est-ce qui. Parce que selon ce que je sais, les Blues de Saint-Louis sont pas trop partants de garder ce 8 millions par année-là dans leurs effectifs, vu toute la jeunesse qui s'en vient en termes d'attaque. Ils ont repêché beaucoup d'attaquants depuis les derniers 3-4 repêchages. Il y en a qui sont prêts. On a vu Zachary Bolduc, là, ils l'ont échangé. Mais il y en a d'autres qui s'en viennent sous très peu. Donc, pour moi, avec l'arrivée de Snuggerud, on l'a entendu aussi, ils veulent dépenser plus d'argent en défensive. Donc là, ça devient un peu problématique parce qu'il y a il y a de meilleurs défenseurs sur le marché en ce moment, notamment Bowen Byram, qui pourrait être disponible. Donc, c'est certain que la transaction ou la base de transaction que tout le monde ferait, c'est Kyrou, Mike Matheson et ajoute. Donc, ça, je ne veux pas rentrer dans les rumeurs ou quoi que ce soit, mais par contre, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que Jordan Kyrou a le même agent, David Gagné, le même agent que Nick Suzuki.
Oh,
Donc,
ouais,
y
oh oui.
a-t-il un lien à faire là? T'sais, les deux sont toutes rep par Wasserman, qui est aussi l'agence de Noah Dobson, mais Noah Dobson, lui, c'est avec, si je me trompe, Judd Moldover et Olivier Portier.
Ouais.
Donc,
Judd Moldover, qui était
si.
l'ancien partner de Pat Brisson chez CA.
Exact.
Ouais.
Donc, vous voyez, comme vous voyez, c'est un petit monde, là. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas comme Je pense que Max a fait une très belle job et j'invite le monde à aller lire son article sur Dans les coulisses. On s'est parlé d'ailleurs hier soir à ce sujet. Et oui, effectivement, c'est une bonne piste. Et c'est la raison pourquoi je persiste sur le fait que le Canadien persiste sur le cas de Jordan Kyrou. Parce que d'avoir un joueur comme ça, qui est dans le même groupe d'âge qu'un Nick Suzuki, un Cole Caulfield, mais qui est signé à long terme. Ouais, il reste 5 ans, si je me trompe, à 8 millions. Puis ce 8 millions-là, s'il continue à faire des 60, 70 points par année, c'est exactement ça que ça vaut. Donc, si tu le mets à côté d'un gars comme Demidov, mais là, lui et Demidov peuvent se compléter et tu vas avoir un gars comme Kirby Dach qui, lui, n'aura pas le stress ou la pression d'être le fameux play driver, le gars qui va pousser le ton de ce trio-là. Il va être capable de suivre et s'occuper de la défensive.
Ouais.
C'est moins de pression. Plus d'opportunités d'attaque, plus d'opportunités de points, meilleur que la confiance va être, le plus qu'il va avoir de l'opportunité à croître ou peut-être arriver à son potentiel qu'on envisageait.
Puis tu sais, tu parles de 70 points, là, c'est s'il y a quelque chose qu'on peut donner à Jordan Kyrou, c'est sa constance, là. Mis à part sa saison recrue, là, parce que tu sais, on va lui donner un break, là, c'est 75 points, 73 points. 67 points, là, fait que t'es pas loin de 70, puis 70 l'année passée. Fait que tu sais, t'as quasiment un marqueur de 40 buts entre les mains, là, tu sais.
Exact. Puis même si c'est 30 buts, tu le mets à côté d'un gars comme Kirby Dach, qui est un fin passeur, un fin transporteur de rondelles. Arvin Demidov, ça le met dans une bonne situation, mais aussi, ça te permet de changer les choses aussi. Parce qu'il y aurait aussi un moment où ce que tu pourrais faire Demidov sur le premier trio, Slafkovský sur le deuxième. Et ça te permet un peu plus de fluidité dans ce contexte-ci. Donc, je pense que c'est ça que le Canadien se cherche aussi, c'est la capacité d'être un peu plus flexible dans l'effectif, parce que là, le Canadien de Montréal, avec les partisans aussi, voit le premier trio comme étant un trio intouchable. Tandis que moi, j'aimerais voir un certain mix
Ouais.
dans le futur où ce que
Une
peut-être,
répartition, ben
mettons,
oui.
mais c'est ça,
Ouais.
ou de mettre, mettons, un Caulfield plutôt avec Suzuki, je le mettrais plutôt avec un gars comme Kirby Dach,
Ouais.
exemple. Que les deux iraient bien ensemble et tu pourrais peut-être mettre Slafkovský, qui a une belle chimie aussi, lui, avec Nick Suzuki et un Ivan Demidov, et voir comment ça pourrait aller aussi. Donc, tu sais, c'est la vision que j'ai, puis je pense que ce que j'ai entendu, Kent Hughes et Jeff Gorton ont un peu la même vision. Je pense pas qu'il y a quelqu'un dans le système en ce moment qui pourrait être un ailier top 6 dominant, comme pourrait l'être Kyrou, versus le fait qu'ils ont Michael Hage, que eux autres envisagent comme étant un futur deuxième centre.
Ouais.
Donc, je pense que c'est là où ce que les Canadiens se disent, peut-être on devrait investir.
Ouais, ben oui. Et je pense effectivement que dans ce cas-ci, ça vaudrait la peine. Tu sais, Kent Hughes, depuis son arrivée, l'argument pour attirer des joueurs à Montréal ou tenter de conclure des transactions, c'est le marché montréalais. Tu sais, il vend, là, quand tu gagnes à Montréal, c'est le fun, puis c'est excitant, puis c'est sharp, il n'y a pas un marché comme Montréal, puis le Centre Bell, puis tatati, puis tatata. Je me trompe-tu du côté des joueurs, là? C'est pas ça qui nous attire. C'est les gars avec qui on va jouer et le potentiel qu'on a à gagner une Coupe Stanley à court terme. Moi, m'a dit, là, je suis un joueur convoité, là. Je suis intéressé à jouer à Montréal au risque de payer plus de taxes, mais je sais que je vais me retrouver avec un club qui aspire à très court terme, là, tu sais.
Oui, il y a une couple de façons de le regarder. L'engouement envers le club se multiplie de façon très élevée. Le plus qu'il y a du succès à côté du club, le plus que le club gagne et quoi que ce soit, il y a aussi l'opportunité de tout ce qui est les sponsorships et tout, là, de se faire commanditer et quoi que ce soit. Fait que ça rentre dans le salaire et tout ça. Mais selon ce que je me suis fait dire aussi, c'est le vibe dans le vestiaire, c'est la culture dans la chambre. Je sais que c'est vendre sa sauce un peu si t'es le Canadien de Montréal, mais avant même que Noah Dobson signe avec le Canadien de Montréal, je savais qu'il voulait, sa destination numéro un était Montréal. Et ça, on l'avait rapporté, je pense, 2 jours avant la transaction.
Ouais.
Et d'ailleurs, cette volonté-là a été mise en évidence parce que il a pris un moindre salaire pour venir à Montréal. Il a pris 9,5 millions alors qu'il demandait 10 millions aux Islanders de New York et que les Blue Jackets de Columbus étaient prêts à offrir même plus
Ouais.
que 10 millions.
Ben, c'est pour ça que
Donc, ça
quand tu parles
démontre.
de Matheson, tu sais, Matheson est un gars de l'endroit, est un gars du Québec, il veut
Ah,
certainement
je sais.
profiter de cette folie-là. Moi, si j'étais son agent ou si j'étais lui-même, moi, je serais prêt à la prendre, la diminution de salaire, pour faire partie de cette aventure-là.
Et c'est là où ce que le débat se part. Est-ce que Mike Matheson, pour le Canadien de Montréal, puis écoute, moi, je ne veux pas partir de l'humeur, mais quand on parle de Mike Matheson, est-ce qu'il va valoir plus pour le Canadien comme un troisième paire, un défenseur de troisième paire ou un numéro 4, exemple, dans sa mi-trentaine, sur un contrat, disons, abordable, comme du 4 millions, 3,5 millions, exemple, comme on voit les John Tavares de ce monde signer en ce moment? Ou est-ce que sa valeur marchande en ce moment pourrait être une valeur plus sûre qui permettrait d'aller chercher un joueur qui fitterait un besoin à long terme? Parce que les défenseurs gauchers, le Canadien en ont en profusion.
Ouais.
Donc, c'est là où est-ce que tu fais la balance. Puis je comprends les deux côtés de l'argument. Je pense que en ce moment, je ne pense pas que le Canadien de Montréal aurait l'intérêt de l'échanger. Sauf si ça serait pour un joueur de la trempe d'un gars comme Jordan Kyrou ou pour un centre numéro 2.
Ouais.
Puis je crois que la valeur marchande de Mike Matheson sera à son apogée le moment qu'on va avoir de la clarité sur la situation de Bowen Byram, parce que lui, il est le défenseur gaucher de l'heure en ce moment qui se fait courir après par d'autres clubs, y inclut les Blues de Saint-Louis. Et c'est à ce moment-là que, quand son dossier va être clair, je pense que les Canadiens vont recevoir des appels sur Matheson et auront peut-être à prendre une décision.
Marco, je lis les commentaires des auditeurs et tout le monde te trouve très, très, très pertinent dans tes commentaires. Alors, je te félicite. Et je te
Ah,
laisse
merci
sur
beaucoup.
la question qu'on va poser au retour de la pause à nos auditeurs, OK? Puis, je fais juste prendre là, les plus récentes transactions de Kent Hughes, OK? On a laissé filer Jordan Harris, Justin Barron, Emil Heinemann. Bon, bien sûr, nos deux choix de premier tour de 2025, là, le 16e et 17e au total, si on n'avait pas vraiment le choix, et plus récemment, Logan Mailloux. Mais en retour, dans tout ça, tu es allé chercher Patrick Laine, Alexandre Carrier, Noah Dobson, Zach Bolduc, puis je vais même ajouter un choix de deuxième tour en 2026, OK? Parce que ça fait quand même partie du lot. M'a dit, quand tu fais l'analyse du travail de Kent Hughes, là, depuis son arrivée là, il y a 2 ans et demi et plus récemment, parce que là, il est non seulement actif, il est même très agressif. C'est difficile d'y donner autre chose qu'un A ou même un A+ pour tout ce qu'il a fait récemment. Tu sais, dans son bulletin, là.
Je dirais les 9 derniers mois, c'est du très bon travail. Je pense que les seules transactions où ce que je me posais vraiment des questions, c'était les transactions Kirby Dach et Alex Newhook. Mais depuis, écoute, d'échanger Jordan, d'échanger pour Alex Carrier, excuse-moi, avec Justin Barron, c'est vraiment admettre peut-être que c'était pas nécessairement le bon joueur à aller chercher dans une transaction de Lekkonen, mais
De
que
le
tu
connaître, ouais.
transiges ça en Alex Carrier, ben là, c'est comme réparer une erreur quasiment. Donc, j'ai aimé le fait qu'il a pu identifier peut-être avoir fait une erreur dans son cas et ensuite aller chercher un joueur qui va fitter immédiatement et peut-être même pour une autre couple d'années en attendant David Reinbacher. Donc, tu sais, c'est cette vision-là que j'aime beaucoup. Et écoute, Noah Dobson, le côté Hughes a fait beaucoup, beaucoup de travail sur ce dossier-là. Je les félicite. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu en détail en anglais, mais en français, je vous l'explique. Kent Hughes a été très agressif dans le dossier, a entendu la disponibilité et est rentré directement dans la discussion, même si Columbus avait déjà négocié pendant un petit bout, a quasiment volé Noah Dobson des mains de
Bien,
Columbus.
surtout que
Et là,
Columbus était prêt à donner plus d'argent en plus, là.
plus d'argent, probablement un meilleur package, selon moi, en termes de qu'est-ce qu'il y avait en termes d'effectifs. Mais c'était le désir de Noah Dobson, parce que lui était un agent libre avec restriction, mais avec de l'arbitrage. Donc lui, il restait une année avant qu'il devienne libre comme l'air. Donc lui, il disait, écoute, ou vous m'envoyez à Montréal, ou je vais faire des demandes non abordables à Columbus. Ça l'a donné que Montréal a eu la meilleure offre selon Dash, parce qu'il avait un amour fou pour Emil Heinemann,
Ouais.
et il voulait utiliser les deux choix pour monter au repêchage. Donc, ils ont pris cette offre-là, mais c'est aussi le processus d'agent et de comprendre cette game-là qui a donné un avantage à Kent Hughes pour vraiment utiliser un peu l'émotion de la situation pour aller chercher son joueur.
Et juste, je t'ai pas entendu sur le sujet, là, même je te suis pas mal sur les réseaux sociaux. Avec qui tu penses que Noah Dobson formerait le meilleur duo? Là, je sais que les amateurs souhaitent le voir en compagnie de Lane Hutson. Là. Est-ce que tu vois là un duo probable ou t'aimes mieux répartir le talent sur deux paires?
Ouais. C'est un peu difficile. Ça va être tout un casse-tête pour M. Saint-Louis une fois la saison débute. Idéalement, sur papier, tu aimerais avoir tes deux meilleurs défenseurs ensemble. Ce que je dirais, par contre, c'est que je ne serais pas contre voir une paire Caden Gooley avec Noah Dobson. Je pense que ce serait une paire assez épeurante qui serait mobile.
Sincèrement, là, je préparais ma question, là, puis j'essaie de penser, c'est quand la dernière fois que le Canadien aurait présenté un duo de défenseurs aussi explosif que ça? Et j'en ai pas trouvé. J'ai reculé à loin. Là, rappelle-toi Markov, Komisarek. Mais on s'est rendu compte que c'était Markov qui faisait rouler Komisarek. Puis que l'un sans l'autre, ça marchait pas. Je pense qu'il faut retourner aux années de Chelios, aux années 70, pour voir un one-two punch aussi spectaculaire que ce que ça serait.
Ouais, c'est ça. Je pense que le plus proche qu'on a vu durant ce siècle, on va dire, serait probablement Markov-Subban. Ce serait le plus proche,
oui, effectivement.
Je dirais, en termes d'élite. Ouais. Mais oui, je pense qu'il faut retourner aux années, je dirais 80. Là. Je pense que depuis le Big Three ou depuis le temps de Chelios avant qu'il soit échangé. Écoute, c'est de bonne augure. C'est pour ça que je vous dis, la transaction de Dobson est un coup de circuit parce que juste essayer de repêcher un joueur comme ça, je pense qu'on l'a vu avec le Canadien de Montréal, ils ont dépensé un choix de 5 au total pour aller chercher un gars comme David Reinbacher. Ils ont dépensé deux choix, 16 et 17, que si mis ensemble, ce serait pas assez pour monter dans un top 5, plus Emil Heinemann pour aller chercher un défenseur numéro 1 droitier en Noah Dobson. Donc, pour moi, c'est toute une acquisition. Maintenant, c'est juste une question de la défensive est finie. C'est le temps d'aller vraiment travailler sur le top 6.
Oui, mais c'est-tu quoi? Et puis ça, c'est pas moi qui l'a dit, cette phrase-là. Là, les plus grands stratèges du hockey te le diront, là, de Scotty Bowman à Martin Saint-Louis. Là, les buts viennent dans l'arrière. Fait que je peux te dire que les gars les plus heureux de l'acquisition de Noah Dobson, là, ben c'est un Caulfield, puis c'est un Demidov, puis c'est un Suzuki, parce qu'ils savent que le puck va monter par en haut, là, puis ça va être spectaculaire. T'as beau avoir la meilleure brigade offensive, si le puck ne monte pas, il n'y a rien qui se passe.
Puis j'ajouterais même que je pense que qu'est-ce que Noah Dobson apporte aux Canadiens de Montréal, c'est qu'est-ce qui manquait au jeu de Lane Hutson. C'est son arsenal de tir, que ce soit son tir des poignets, son tir frappé, son tir sur réception, c'est sa force. C'est minimum 10 buts par année. Et un gars qui n'a pas nécessairement marqué beaucoup de buts depuis les deux dernières années en avantage numérique. Donc imaginez avoir un général comme ça sur ta deuxième vague ou même essayer de le mettre sur la première vague avec Lane Hutson. Là, tu as vraiment un arme concret à la ligne bleue en avantage numérique qui va faire en sorte que ça va changer la dynamique dans ce contexte-ci parce qu'il va se faire plus respecter à la ligne bleue qui va ouvrir les lignes de passe le long des cercles. Donc, c'est là que l'acquisition de Noah Dobson, c'est pas juste le mettre avec qui, c'est aussi comment ça va impacter les attaquants sur la glace. Donc, j'aime le point que Cole Caulfield, Nick Suzuki vont aimer ça parce que ça va ouvrir le jeu pour eux. Et c'est ça que ça fait avoir plus de joueurs de talent dans
100%.
Ça l'ouvre le jeu pour les autres.
100%. Là, c'est sûr que les gars en avant là, sont en train de se frotter les mains et ils se disent « Enfin, le puck va monter rapidement. » Hey Marco, c'était super le fun de te jaser. Comme je te dis, je te suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, mais on s'était jamais rencontrés, jamais croisés, jamais jasés. Fait que c'est une bonne première rencontre. Puis je t'ai trouvé, comme je le dis, super pertinent. Fait que lâche pas ton bon travail.
Merci infiniment, puis bonne journée à tous les auditeurs.
All right, merci Marco. Alors voilà, Marco D'Amico, que je peux catégoriser d'insider. Tu sais, le terme journaliste n'est peut-être pas le bon terme parce qu'un journaliste vient de l'école de journaliste et couvre les activités quotidiennes. Lui, il sort des scoops. Fait que c'est vraiment un insider. Puis pour le vrai, il fait vraiment, vraiment du bon boulot. Puis visiblement, il connaît son hockey.